Pour la prédication de ce matin, nous allons nous intéresser à un passage peu connu de l'Écriture, le chapitre 13 du livre des Juges. Et si nous avions lu ce texte dans notre lecture quotidienne, nous ne nous serions probablement pas attardés dessus, en tout cas pas longtemps, probablement, mais c'est un récit étonnant, il a des choses à nous dire. Alors nous allons carrément prendre le temps de lire l'ensemble de ce chapitre qui forme voilà, tout un récit, toute une histoire. Donc Juges, chapitre 13, la totalité du chapitre, donc les versets 1 à 25, et je vous fais la lecture dans la Bible version second 21, que vous pouvez suivre aussi au fur et à mesure. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, du clan des Danites, qui s'appelait Manoar. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Te voici stérile, sans enfant. Tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin ni liqueur forte, et de ne rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Celui-ci, ce sera lui, pardon, qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il ressemblait à un ange de Dieu. Il avait l'air effrayant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Manoar fit cette prière à l'Éternel. « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoar, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle se trouvait dans un champ, et Manoar, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut vite annoncer la nouvelle à son mari et lui dit, « L'homme qui est venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoar se leva pour suivre sa femme, alla vers l'homme et lui demanda, « Est-ce toi qui as parlé à ma femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Manoar dit, « Lorsque la parole s'accomplira, comment faudra-t-il agir vis-à-vis de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire ?» L'ange de l'Éternel répondit à Manoar, « Ta femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera à aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte et ne mangera rien d'impur. Elle respectera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoar dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de te préparer un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoar, « Même si tu me retiens, je ne mangerai pas de ton plat. En revanche, si tu veux faire un holocauste, offre-le à l'Éternel. » Manoar ne savait pas que c'était un ange de l'Éternel. Il dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous te donnions gloire quand ta parole s'accomplira ?» L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. » Manoar prit le chevreau et l'offrande et il fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il se produisit quelque chose de merveilleux pendant que Manoar et sa femme regardaient. Pendant que la flamme montait de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans cette flamme. À cette vue, Manoar et sa femme tombèrent le visage contre terre. L'ange de l'Éternel ne leur fut plus visible. Manoar comprit que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, « Nous allons mourir !» car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande, il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre de pareilles choses. » La femme mit au monde un fils et l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action à Machanédan, entre Tseroa et Eshtaol. Vous le savez, l'époque du livre des juges, l'époque des juges, n'est pas la période la plus glorieuse du peuple d'Israël. Depuis leur arrivée, sur la terre promise, et même déjà dans le désert, juste après l'Exode, les Israélites n'ont pas brillé par leur fidélité envers Dieu. Et le dernier verset, d'ailleurs, du livre des Juges, et puis c'est répété au moins une autre fois dans le livre, nous dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et ce dernier verset n'est pas à prendre dans le sens positif. Si chacun faisait ce qui lui semblait bon, c'est parce que le peuple avait perdu de vue le Seigneur et ses commandements. Et en fait, quand chacun fait ce qui lui semble bon, le résultat n'est pas bon au final. Pourquoi ? Parce que ce qui nous semble bon n'est pas toujours bon. Dans la Bible, c'est Dieu, en tant que créateur, qui sait ce qui est bon pour les êtres humains. D'autres indices nous montrent également que le peuple se conduit mal, et on va trouver dans ce livre des Juges un schéma qui va se répéter plusieurs fois. D'abord, les Israélites font ce qui déplaît à l'Éternel. Ensuite, Dieu se met en colère et livre son peuple aux mains de leurs ennemis. Mais les Israélites crient ensuite à l'Éternel et l'Éternel suscite un libérateur, donc c'est un des juges, qui les délivre. Et enfin, le pays est à nouveau en paix pendant quelques années. Et cette histoire se répète pas moins de 6 fois, signe dans le livre des Juges, signe que le peuple chute et rechute régulièrement. Et la dernière fois où on trouve ce schéma, il s'agit de notre passage, justement, que nous venons de lire, au verset 1, où il était écrit, « Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. » Sauf que d'habitude, les Israélites ensuite crient à l'Éternel et l'Éternel leur envoie un libérateur. Et là, on s'aperçoit que le peuple ne crie même plus à Dieu. Cette 6e fois que ce cycle se répète. Le peuple ne crie pas à Dieu. Le peuple a perdu Dieu de vue. Certains commentateurs font remarquer que la décadence spirituelle du peuple, nous pouvons aussi la voir si on observe la manière dont les femmes sont traitées dans le livre des Juges. Au début du livre, les femmes sont mises en avant avec Déborah et Yaël, mais à la fin, la femme du Lévite est violée et tuée. Dans notre passage, il y a aussi une femme dont nous ne connaissons pas le nom, la femme de Manoar. Le tableau est plutôt sombre et on les sent vraiment perdus au milieu, ce couple, on le sent un peu perdu au milieu d'un peuple qui est aussi perdu. Même s'il appelle au secours des Israélites envers Dieu manque, Dieu va malgré tout prendre l'initiative d'envoyer un libérateur, mais on voit que c'est Dieu qui fait vraiment tout dans ce texte de A à Z. Ce dernier libérateur, Samson, va commencer à délivrer Israël, nous est-il dit. Samson sera d'ailleurs un héros en demi-teinte. Il ne fera que commencer à délivrer le peuple d'Israël et il n'a pas eu, de loin pas, un bon comportement à plusieurs reprises. Ce peuple qui a perdu Dieu de vue me fait penser à notre société d'aujourd'hui, où on pourrait dire « chacun fait ce qu'il veut ». Hier soir, on était à une soirée de jeunes et on a eu l'influenceuse qui se fait appeler sur les réseaux « Sœur Co » qui apportait un message aux jeunes et elle a dit « mais quel est le message que vous entendez les jeunes ?» Et puis parmi ce message-là, il y a bah, « finalement, profite, fais ce qui te plaît, voilà, sans te poser la question de si c'est bien ou pas, quoi, voilà, profite au maximum ». Nous sommes dans une société où chacun fait ce qu'il veut et la société nous encourage à vivre de cette façon. Peu de personnes parmi nos concitoyens font appel à Dieu dans la détresse. Il y en a quand même qui, lorsqu'il leur arrive une épreuve, se tournent vers ce Dieu à qui ils ne se sont jamais adressés avant. Mais peu font appel à Dieu. Et ça ressemble à ce peuple qui ne fait même pas appel à Dieu dans la détresse. Notre société se soucie guère de Dieu. C'est plutôt le plaisir qui est mis en avant, le plaisir notamment de consommer. Et quand vient le temps de se poser des questions sérieuses, ben justement, on n'en a plus du temps. à consacrer à ces choses importantes, à ces questions existentielles. Le temps s'écoule, les années passent, et en tout cas au niveau spirituel, on en est au même point. La société nous propose toujours les mêmes réponses qui ne nous aident pourtant pas à avancer. Alors, on peut prendre la décision de ne pas suivre la société, d'essayer de l'analyser pour en subir le moins l'influence, essayer de marcher à contre-courant. Et vous savez qu'il y a certains poissons, ce sont je crois même les saumons, qui arrivent à remonter le courant. Mais c'est quelque chose d'extrêmement fatigant. D'ailleurs, après avoir remonté le courant jusqu'à l'endroit où ils sont nés, ils vont mourir. Il est bien difficile de vivre dans notre monde de façon critique, de remonter le courant, de ne pas accepter ce que tout le monde accepte, de ne pas avoir comme valeur les valeurs de la pensée unique et correcte dans notre société aujourd'hui, ne pas avoir non plus les mêmes centres d'intérêt et les mêmes goûts. On est quand même fortement influencé par la société dans laquelle on vit. Et alors, si peu de personnes autour de nous font appel à Dieu, est-ce que nous aussi, il nous arrive de ne plus lui faire appel, plus faire appel à Dieu, de ne plus lui faire réellement confiance? C'est un défi, un véritable défi de se démarquer et de vivre une foi ancrée dans la parole de Dieu. Un peuple tout entier était en perte de repère, avait perdu Dieu de vue. Et si on zoome maintenant sur ce couple en particulier, Manoah et sa femme, on s'aperçoit qu'ils ont été aussi influencés par l'attitude de tout le peuple. On a dans notre texte une scène d'annonciation, c'est quand même pas rien. Il y avait une femme qui était stérile et un ange arrive et lui apprend qu'elle va être enceinte. Mais il y a des éléments très surprenants et très étranges dans ce texte parce que, bon, tout d'abord, le couple n'avait pas demandé à Dieu d'enfant. Dieu prend l'initiative. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le couple n'exprime aucune émotion jusqu'à un moment tout à la fin. Pas de reconnaissance non plus. C'est quand même incroyable, il y a une femme qui est stérile et qui on lui annonce qu'elle va avoir un enfant, il n'y a aucune émotion et aucune reconnaissance exprimée dans le texte. Ce couple est à l'image du peuple tout entier qui n'avait même pas demandé à Dieu un sauveur. Ni Manoah ni sa femme ne manifestent de joie pour le cadeau qu'ils ont reçu. Par contre, alors ils vont s'intéresser, focaliser beaucoup d'attention sur l'identité de l'ange. Qui est cet homme-là, etc. Ils posent plein de questions autour de qui est cet homme qui est venu les rencontrer. Et ils vont s'intéresser aux règles. Qu'est-ce qu'on doit faire? Répète-nous encore, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il manque tellement de reconnaissance envers ce qui leur est arrivé que c'est même l'ange lui-même qui doit leur suggérer d'offrir un holocauste, un sacrifice. C'est celui qui va pousser Manoah à remercier Dieu, c'est Dieu lui-même, à travers son messager, son ange. Et c'est quand l'ange n'est plus là que Manoah comprend à ce moment-là que c'était un envoyé de Dieu. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on a la première émotion, une émotion un petit peu en plus en décalage, puisque tout d'un coup il est pris de peur, il croit qu'il va mourir. Et cela nous montre qu'il n'avait pas compris grand-chose. Dieu ne lui aurait pas fait voir toutes ces choses si c'était pour le faire mourir juste après, comme lui fait remarquer sa femme. Alors pour résumer, on a un couple qui s'intéresse donc à l'identité de l'ange, qui s'intéresse à leur responsabilité, si bien qu'ils en oublient la joie et la reconnaissance. Il faut que l'ange lui-même les redirige le couple vers la reconnaissance. C'est aussi un couple qui avait perdu Dieu de vue. Mais ne sommes-nous pas, application, comme ce couple aussi, quelquefois ? nous arrive-t-il de manquer de reconnaissance envers Dieu ? En tout cas, on peut difficilement être reconnaissant envers Dieu si on ne reconnaît pas l'œuvre de Dieu dans nos vies, si on ne discerne pas que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Si on pense, par exemple, que certaines des bénédictions dont nous jouissons sont dues à notre mérite. La reconnaissance de Dieu précède la reconnaissance envers Dieu. Prenons le temps, du coup, de revoir notre vie pour y discerner l'action de Dieu et soyons-en reconnaissants. N'attendons pas qu'un ange vienne et nous dire « Tu pourrais quand même remercier Dieu ». Imaginez que vous offrez des fleurs à quelqu'un. Quelle serait votre réaction si la personne qui reçoit votre cadeau, premièrement, ne dit pas merci, mais ensuite dit « Oh, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant avec ce bouquet-là ? Vite, 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 que je trouve un vase pour les mettre, ça m'embarrasse. Comment on réagirait au plus beau des cadeaux et comment réagissons-nous au plus beau des cadeaux qu'est la vie éternelle ? Que Dieu nous donne. On a parlé des 80 ans de Claude, mais sa vie ne fait que commencer à Claude. Nous avons la vie éternelle. Comment est-ce qu'on réagit à ce cadeau ? Est-ce qu'on s'intéresse d'abord aux règles à suivre, comme ce couple ? Mais alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? J'ai la vie éternelle, maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il faut que j'aille au culte, il faut que je prie, il faut que je lise la Bible. Alors, on l'a entendu, c'est important, la piété dans le témoignage de Robert. Il faut que je participe aux réunions de vie d'église, aux réunions d'église, etc. Mais est-ce que je le fais pour le faire ou est-ce que je le fais parce que je suis reconnaissant pour un cadeau immense que j'ai reçu ? On pourrait comparer le couple de Manoah et sa femme à l'église, l'église qui vit au sein de notre société, mais ce couple a quand même quelque chose en plus. Ce couple reçoit une parole de Dieu. L'Église a reçu aussi une parole, a reçu un sauveur. Ce couple va mettre au monde un sauveur, un fils. Et notre sauveur Jésus, il n'est pas né d'une femme stérile, mais d'une femme vierge. Jésus nous offre un salut qui est parfait. Il ne fait pas que commencer à nous délivrer. Il a tout accompli à la croix. L'Église est donc à la fois différente de la société et en même temps intégrée dans la société. Et sa spécificité à l'Église, c'est d'avoir un sauveur. Alors si le peuple peut représenter la société et le couple l'Église, alors maintenant on va passer au niveau individuel et on va regarder le personnage même de Samson. Alors bon, on n'a pas grand-chose sur Samson dans ce texte-là, il est juste né à la fin. Mais j'attire votre attention sur un détail du texte, parce que peut-être que notre vie ne commence pas le jour de notre naissance, mais peut-être que voilà, nos parents aussi, quelque part, ont un impact sur notre vie bien avant notre naissance. Et un détail qui pourrait passer inaperçu, mais qui m'a semblé important, il s'agit de la mère de Samson. Lorsqu'elle reçoit donc une parole de l'ange, etc., elle comprend bien que voilà, son enfant sera consacré dès le ventre de sa mère, dès sa naissance, à tel point que même sa maman ne devra pas boire de boisson alcoolisée, comme Samson lui-même ne devra pas en boire, il ne faudra pas couper ses cheveux, etc. Donc il y a un certain nombre de règles quand même, et la mère de Samson est très attentive à cela, mais l'ange dit... C'est lui qui commencera à délivrer le peuple des Philistins. Quelque part, cette consécration de Samson était dans un but, ce n'était pas simplement pour respecter des règles, il y avait un but. Mais lorsque la femme répète à son mari ce que l'ange lui a dit, elle lui répète très précisément toutes les règles que l'ange lui a données, mais elle oublie de lui dire que c'est son fils, du coup, à Manoah, qui commencera à délivrer le peuple des Philistins. Samson va donc grandir avec un certain nombre de règles, assez strictes tout de même, mais sans savoir quelle est sa mission, puisque aussitôt dit par l'ange, ça a été oublié, tout a été focalisé sur les règles. Et Samson a été éduqué comme ça. Même son nom, d'ailleurs, Samson, ne reflète pas sa mission. Souvent, les parents donnaient un nom qui avait un sens pour l'enfant. Là, Samson, ça signifie soleil, en fait. Ça, voilà. C'était plutôt même une divinité païenne. Et dans la suite du récit de Samson, de la vie de Samson, eh bien, on remarquera que, alors, il respectera plus ou moins les règles avec lesquels il a grandi, il va jouer avec les limites. Hein, il n'avait pas le droit de boire de vin, ben il va se balader dans les vignes. Il n'avait pas le droit d'approcher un cadavre ou de toucher un cadavre, mais il va récolter du miel dans une carcasse de lion. Il va d'ailleurs faire cette fameuse énigme, hein, vous savez, du fort est sorti le doux, etc., pour dire qu'il avait ramassé du miel dans une carcasse de lion, mais il joue en faisant cela avec les limites des règles qui lui avaient été données. C'est pas étonnant parce qu'il ne savait pas pourquoi, en fait. Et il finira par livrer même son secret, le secret de sa force, ce qui causera sa perte. Tout dans le texte nous montre que lui aussi, Samson, au niveau individuel, a perdu le sens de sa mission. On a donc un peuple qui a perdu Dieu de vue. Un couple qui réagit quand même de façon étrange et qui semble avoir perdu en tout cas au moins la reconnaissance envers Dieu, et un sauveur avec un petit S qui a perdu sa mission de vue. Et même lorsqu'il va combattre contre les Philistins, il le fera pour des raisons personnelles. Alors notre mission de disciples de Jésus aujourd'hui, c'est de témoigner de la foi qui nous habite. Et bien sûr, il n'y a pas qu'une seule façon d'être témoin de Jésus-Christ. Et je vais en citer maintenant deux, en faisant un petit lien avec le texte aussi que nous avons lu. Le premier, l'usage des dons. À l'inverse de Samson, qui avait reçu un don particulier, une force physique hors norme de la part de Dieu, eh bien, il a utilisé ce don pour sa propre gloire, plusieurs fois, sauf tout à la fin. Eh bien, voilà une façon aussi de rendre témoignage de notre foi, c'est de mettre nos dons au service de Dieu et que nos dons rendent, l'exercice de nos dons serve à rendre gloire à Dieu et non pas à nous-mêmes. Et le deuxième point, pour être témoin de la foi autour de nous, eh bien, c'est à propos de l'éducation des enfants. On en a... Parler de ces règles, de Samson qui a dû respecter des règles toute sa vie sans en connaître le sens, eh bien, dans le rôle de parent, il y a aussi, nous courons aussi ce risque de transmettre des règles, des habitudes, des traditions. Je ne dis pas que tout ça, c'est mauvais. Hein. Une éthique chrétienne, mais si on ne précise pas que cela découle du salut reçu par grâce, eh bien, nous tombons dans un piège de transmettre quelque chose finalement de très traditionnel. Et est-ce qu'on transmet avant tout le message du salut par grâce avant de s'intéresser à tout le reste qui va avec et qui en découle? Demandons à Dieu la sagesse pour transmettre ce qui est essentiel à nos enfants et plus largement aux générations futures, les petits-enfants, les neveux, les plus jeunes que nous dans l'Église. Quelques mots de conclusion. Notre société actuelle ne sait pas qu'elle est perdue. La peur du jugement divin a quasiment disparu. On se moque de l'enfer, on croit pouvoir aller tous au paradis, comme le dit une chanson célèbre. Notre société est donc sans repère. L'Église est donc un peu comme une île, on va dire, comme une île au milieu de l'océan. Elle existe, cette Église, et persévère par la grâce de Dieu depuis des siècles. Elle est au bénéfice des promesses de Dieu en Jésus-Christ. L'Église, comme je le disais, a un sauveur. Alors que le Seigneur nous aide à réfléchir ensemble à notre mission, comment la mettre en œuvre pour sa gloire, n'ayons pas ce témoignage vis-à-vis du monde qui nous entoure de transmettre des règles religieuses, mais manifestons ensemble l'amour de Dieu et proclamons son salut par grâce. Amen.